Nous sommes là, nous serons là. On l'a fait pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le fera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde, Bonjour, bienvenue dans l'émission Autre monde, autres ondes sur Jet FM. On se souhaite le meilleur pour cette année 2026. Des luttes victorieuses, des manifestations sans violence policière et la prise en compte par nos gouvernants de nos besoins communs, santé, éducation, logement, pollution, par exemple. Nous allons poursuivre notre réflexion après la première émission du mois dernier sur la zone de Donge-Saint-Nazaire. Nous allons continuer aujourd'hui avec trois intervenantes. Samy Archimède, journaliste pour nous parler du contexte autour de la zone portuaire. Ensuite, Christian Kellard, militant associatif, qui nous parlera de son association et de ses luttes. Et Delphine Favre, qui va parler des collectifs éco-citoyens. Le mois dernier, nous avions évoqué largement la difficulté pour les citoyens de se faire entendre face à l'État, face à la justice, face au préfet, face aux grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir si nous pouvons améliorer la situation et comment nous pouvons le faire. On commence tout de suite avec Samy.
Moi, j'ai commencé à travailler sur la raffinerie et les chantiers de l'Atlantique à partir de 2022-2023. Je connaissais un petit peu la situation de cet espace un petit peu étonnant qui est un estuaire, ou en tout cas de cet estuaire où les industries lourdes sont concentrées au nord, et au sud il y avait des tentatives d'industrialiser une partie de cette partie de l'estuaire sud. J'ai commencé par le sud en 2020-2021. Et puis rapidement, je me suis dit, mais quand même, il se passe des choses incroyables au nord de l'estuaire, entre Saint-Nazaire et Donge. Il se passe des choses incroyables, ne serait-ce que visuellement, quand on arrive, pour quelqu'un comme moi, qui n'était pas habitué à ces environnements industriels, je venais à vélo et je découvrais en arrivant, en traversant des marais, cet environnement industriel, donc qui est d'abord la raffinerie de Donge, donc cette espèce d'enchevêtrement de tuyaux. Il faut savoir que la raffinerie de Donge, c'est 32 000 km de tuyauterie, en partie souterraine, mais aussi en partie visible. Donc c'est vraiment, ça vous saute aux yeux quand vous arrivez, et la première impression, c'est une impression qui est peut-être plus progressive, c'est-à-dire que vous êtes à vélo et vous voyez sur le côté de la route ces panneaux rouges qui indiquent la présence souterraine de tuyauteries qui transportent donc d'oléoducs, qui transportent donc du pétrole. Et ensuite, vous avez des énormes bacs, on appelle ça des bacs, ce sont des réservoirs d'hydrocarbures. Et quand j'ai rencontré l'AEDZRP, la première fois, j'étais saisi par ça. Ils habitent à quelques centaines de mètres, 300 ou 400 mètres, on peut dire, de ces énormes bacs qui contiennent donc du pétrole, et on va le voir un peu plus tard, qui peuvent poser des problèmes immédiats et directs et dangereux pour la population. Donc, la l'ouverture, le point de départ de l'enquête que j'ai réalisée avec Splan, ce média donc d'investigation breton basé en Bretagne, c'est la raffinerie. Mais on s'est dit très rapidement qu'on ne pouvait pas se limiter à la raffinerie parce que si on prend un peu de recul, on voit que c'est tout un ensemble en fait. C'est le grand port de Nantes-Saint-Nazaire, donc sur 65 à 70 km entre donc Saint-Nazaire et Nantes, où se concentre un nombre d'entreprises classées ICPE, c'est-à-dire surveillées pour leur potentielle dangerosité environnementale et sanitaire. C'est dans cet ensemble qui fait donc 65 km que se concentrent ces industries dangereuses et donc parmi elles, la raffinerie. On a rapidement décidé avec Splend qu'on allait s'intéresser aussi aux autres grandes industries que sont donc les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique, mais également Yara et Airbus. Mais là, aujourd'hui, je vous parlerai essentiellement de la raffinerie et des chantiers navals. L'autre élément qui a fait qu'on a voulu s'intéresser de près et de l'intérieur à ces industries, c'est que on avait des chiffres qui étaient inquiétants depuis longtemps. Hein. Ça fait plus de 25 ans que dans cette zone, les chiffres de surmortalité sont alarmants. Hein. Donc on a en gros, enfin précisément plus exactement, on a plus 42% de surmortalité parmi les hommes de moins de 65 ans dans l'agglomération de Saint-Nazaire. Donc comparé aux autres régions françaises, comparé à la moyenne française. Donc il y a visiblement un problème et il était logique d'aller voir comment le lien, si on peut établir un lien entre les pollutions industrielles dans cette zone et la santé de la population, à commencer par les salariés qui sont à la fois exposés au travail et exposés en tant qu'habitants. Donc le travail qu'on a fait, c'est d'abord d'aller voir comment travaillent les salariés les plus exposés, à quoi ils sont exposés. Et donc on est allé, je vais vous parler des chantiers de l'Atlantique pour commencer, puisque on parle rarement on n'imagine pas que la pollution, enfin que des chantiers navals puissent polluer. On n'imagine pas non plus trop, puisque l'information ne sort pas, que les gens qui y travaillent puissent être directement affectés par leur travail. Mais les choses sont pourtant très concrètes. Quand on a rencontré la CGT, on s'est rapidement confronté à un cas qui venait d'arriver. Un jeune homme, un jeune père de famille de 34 ans à l'époque, qui avait été gravement intoxiqué c'était un soudeur intérimaire, qui travaillait donc pour un sous-traitant des chantiers, un sous-traitant de premier rang. Hein. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de sous-traitance, hein, ça peut aller assez loin. Lui, c'était un sous-traitant, un intérimaire travaillant pour un sous-traitant de premier rang. Donc, on peut dire avec une certaine visibilité, c'est-à-dire que quand on est plus loin dans les rangs de sous-traitance, on peut se dire, bon, les chantiers, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe, c'est impossible. Mais quand on a un sous-traitant de premier rang, avec des salariés qui sont directement impactés par exemple, les fumées de soudage, comme c'est le cas dans cette situation. Donc je vous explique un petit peu la situation de ce jeune homme. Il se retrouve chez lui un jour, il se sent malade, mais malade comme un chien, comme il le décrit lui-même, et il me dit, donc, quand je le rencontre, en fait, j'avais l'impression que j'allais crever ce jour-là. Ce garçon, son travail, c'était de souder donc des cuisines et des jacuzzis dans les bateaux. C'est donc de la soudure inox qui dégage un gaz, enfin qui dégage des substances très dangereuses et notamment du chrome 6. Le chrome 6 est classé cancérigène depuis plus de 30 ans. Ce jeune homme donc se retrouve malade à crever, comme il le décrit lui-même. Et quelques jours plus tard, comme il a eu la bonne idée d'aller rencontrer les syndicats et de se faire tester. Donc normalement, quelqu'un qui soude le chrome 6, enfin qui est en contact avec du chrome 6, qui fait de la soudure inox. Il est censé être surveillé toutes les semaines. Il doit aller se faire, il doit aller faire pipi dans un bocal pour dans un flacon pour qu'on voit s'il a du chrome 6 et quel est le niveau de chrome 6 auquel il a pu être exposé. Lui, en tant qu'intérimaire, il n'était pas censé donc souder du chrome 6, souder faire de la soudure inox qui l'exposait au chrome 6, et donc il n'était pas protégé. Donc en fait, l'entreprise sous-traitante qui l'a fait travailler pendant des mois, ça a été constaté par sa pneumologue, pendant des mois, on lui a fait faire donc ce genre de soudure sans être protégé, avec pas les bons masques, sans autorisation, sans licence et sans suivi sanitaire. L'entreprise avait tout faux. Mais si c'était un exemple totalement isolé, on pourrait se dire, bon, c'est pas de chance. Le problème, c'est que c'est fréquent et que la CGT a documenté la fréquence de ces manquements à la réglementation. On parle de vie humaine, hein. On parle d'un jeune homme qui, aujourd'hui, a perdu 38% de sa capacité respiratoire. Donc, cet exemple-là, il montre que l'entreprise donneur d'ordre, donneuse d'ordre, donc qui est donc les chantiers, se cache derrière la sous-traitance pour faire réaliser, bon, souvent à moindre coût, mais surtout à moindre coût social et sanitaire, puisque elle n'est plus responsable de la santé de ses salariés. Ce sont soit la boîte d'intérim qui va évidemment dire c'est pas elle, c'est le sous-traitant. Le sous-traitant va dire c'est pas moi, c'est la boîte d'intérim ou c'est les chantiers. Et donc, au bout du compte, les gens en général, ils vont pas porter plainte, ils vont pas chercher un lien entre la maladie qu'ils ont et donc l'exposition qu'ils ont eue de par le travail. Et c'est ça tout le problème que met en avant cet exemple-là. C'est que je pourrais donner d'autres exemples, mais on va rester là-dessus. On a donc un certain nombre de salariés, et là je vous ai parlé d'un salarié français travaillant pour une entreprise, un sous-traitant de rang 1. Imaginez les salariés étrangers qui viennent de loin, qui ne parlent pas français, qui n'ont même pas accès au manuel qui est censé leur donner des informations sur comment se protéger, etc. Les exemples sont légion, hein, on a 20 000 salariés ont été donc étrangers, ont été identifiés sur une période de 3 ans et demi par des chercheurs sur les chantiers de l'Atlantique. Ça donne une idée quand même de la quantité de personnes qui travaillent dans ces chantiers et qui passent totalement en dessous des radars. Voilà, on a une sous-évaluation chronique. Et grave, des accidents du travail, mais surtout des maladies qui ne se déclarent pas tout de suite, parce que, encore une fois, ce jeune homme de 34 ans, il aurait pu ne rien déclarer, il aurait pu se sentir mal, repartir au travail, dire oh ben ça va mieux, et c'est ça qui se passe la plupart du temps. Donc, pourquoi on insiste sur les salariés? C'est-à-dire que si on ne montre pas ce qui se passe dans l'entreprise, l'information ne sort pas. L'information ne sort pas dans les médias, l'information ne sort pas, même pas chez les médecins, l'information, on la retrouve nulle part, elle n'est pas non plus au niveau de l'inspection du travail, qui fait ce qu'elle peut avec des moyens très limités. Donc voilà, on est parti de cette réalité du travail pour montrer d'abord que quand on dit plus 42%, de surmortalité dans l'agglomération de Saint-Nazaire, mais peut-être que c'est beaucoup plus, simplement on n'a pas les chiffres. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans leur pays et qui sont aujourd'hui malades, c'est même fort probable. Donc, premier élément, les salariés, ce sont des sentinelles de notre santé. Et cette question de l'opacité, en fait, hein, l'opacité de l'information, c'est quelque chose qui est aussi, comment dirais-je, savamment organisé, hein, par les chantiers, puisque en tant que journaliste, moi, je n'ai jamais pu avoir accès, ne serait-ce que aux éléments de presse habituellement donnés aux journalistes. C'est-à-dire que il y a sur le site internet des Chantiers de l'Atlantique, il y a un endroit où vous mettez votre adresse mail, et puis si vous êtes un bon journaliste, dans leur point de vue, ils vous donnent les informations. Et sinon, vous n'avez pas les informations. Moi, mes demandes d'informations, enfin, mes mails, mes questions envoyées au chantier sont toujours restées sans réponse. Hein. Donc, je ne sais même pas s'il y avait quelqu'un au bout du fil. Voilà pour les chantiers. L'autre élément que je voulais mettre en avant et qu'on a mis en avant dans cette enquête avec Splan, une enquête en quatre volets, c'est le rôle de l'État. J'imagine que les autres intervenants ont parlé du travail qui est fait avec l'État pour essayer de voir quels sont les liens entre la pollution, la santé, etc., hein, l'étude de zone en cours. Moi, je vais plutôt me concentrer sur un accident qui a eu lieu en 2022, fin 2022, donc une fuite de nafta, donc c'est un produit hydrocarbure, hein, dangereux pour la santé si on le respire, à la raffinerie de Donges, 3 jours avant Noël, une fuite importante a lieu, officiellement 770 mètres cubes, donc 770 000 litres de nafta, s'échappe d'une de ces cuves dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est un réservoir, il y a 158 réservoirs sur l'ensemble de cette raffinerie. Et dès le lendemain, ce qui nous a tous frappés, enfin tous les observateurs, associations, moi-même, c'est ce communiqué de la préfecture qui dit pas d'impact sanitaire pour la population. Comment, le lendemain d'un accident de cette nature-là, par définition c'est impossible de jauger 24 heures plus tard l'impact sanitaire sur la population. Comment on en arrive à faire produire un communiqué qui soit aussi péremptoire? On a donc cette quantité de nafta qui se déverse sur le site de la raffinerie, à quelques centaines de mètres des premières habitations, comme je le disais tout à l'heure. Et l'État, dans ses contradictions, après avoir dit qu'il n'y avait pas d'impact sanitaire, demande une étude sanitaire. Demande à Total de diligenter une étude sanitaire. Il faudra attendre 20 mois pour que cette étude sanitaire soit rendue publique. Elle était disponible au bout d'un ou 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 20 mois? En l'espace de 20 mois, TotalEnergies, qui n'était pas visiblement très satisfait des conclusions de cette enquête, de cette étude, a décidé de la mettre au placard. Que disait cette étude? Cette étude disait que la population de Donges, en tout cas certains quartiers, ont été exposés de manière certaine à des quantités de benzène potentiellement dangereuses pour la santé pendant plusieurs jours. Donc, on est dans une situation où l'État demande à une entreprise qui vient de polluer l'environnement et de mettre en danger la population de faire une étude sanitaire. L'État laisse donc l'entreprise garder sous le bras, lui laisse ne pas publier cette étude, mais pas pendant 2 semaines, hein, pendant 20 mois. Et pendant ce temps-là, on parlait tout à l'heure de la problématique d'accès aux documents. Pendant ce temps-là, les associations, les journalistes demandent à avoir accès à ce document. Où en est le document? Donc voilà, on a cette situation qui, on pourrait s'arrêter là, mais en fait, on ne s'arrête pas là, parce que derrière, il y a des gens. Derrière, il y a des gens, derrière, il y a des personnes qui ont senti des odeurs vraiment hyper fortes dans le bourg, donc liées à ce nafta, qui ont eu aussi des mousses anti-incendie. Vous savez, quand vous avez des problèmes quand vous avez un accident de ce type-là, que ce soit un incendie ou de l'essence, du naphta qui se déverse, vous mettez des mousses anti-incendie par-dessus pour éviter que ça s'enflamme. Parce que si ça s'enflamme, c'est la catastrophe totale. Donc, sauf que les mousses anti-incendie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des PFAS. Il y a des PFAS, des PFOA. Il y a des polluants éternels qu'on a découverts, entre guillemets, dont la population française a découvert l'ampleur il y a 2-3 ans grâce à une enquête du Monde. Que deviennent ces mousses avec le vent, malheureusement, qu'il y avait à cette période-là? Eh ben, le vent a emporté ces mousses et ces mousses se sont retrouvées dans les jardins, sur la route, dans les arbres. Avec des enfants qui sortent, qui vont jouer. Et que se passe-t-il quelques mois après l'accident? L'association A2LRP organise une réunion d'information. Que se passe-t-il? Elle veut savoir, voilà, elle veut informer en tout cas la population et dire que bon, on attend le document de Total, enfin sanitaire, et on a une famille qui vient avec un enfant. Elle vient pas avec un enfant, mais qui vient parler d'un problème grave. Un enfant, donc une jeune femme, nous parle de son enfant de 2 ans et demi, Kézian, qui a développé une leucémie grave quelques mois après cet accident. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que quand on a un enfant de 2 ans et demi qui est en pleine santé et qui se retrouve prostré avec des douleurs partout dans le. Dans le corps qui ne veut pas manger, qui a de la fièvre et que tout ça ne part pas et qu'on vous dit que votre enfant a donc cette leucémie grave, forcément, vous faites le lien avec ce qui s'est passé. Elle me raconte, cette jeune femme, que à l'époque, quand il y a eu cet accident, elle n'osait même pas aller faire ses courses, donc elle prenait ses enfants, elle les mettait dans la voiture pour pas qu'ils respirent. Tellement c'était fort, quoi. Ils ont vu aussi dans leur jardin et tout autour, dans les champs, il y avait ces mousses, ces fameuses mousses. Donc, la problématique est toujours la même. Il est impossible d'être certain du lien entre l'exposition à ce genre de polluant, l'exposition donc à de l'essence et du benzène, et la maladie d'un individu. On ne peut pas le prouver. Les impacts de la raffinerie, il dit, sont invisibles pour les riverains et pour les salariés. C'est-à-dire que la difficulté à laquelle on fait face, c'est que on n'a aucune preuve de cet impact direct. Et que donc on se bat pour avoir de l'information, de la science, des éléments factuels qui nous permettent au moins sur des masses de montrer que le lien, il est très très probable. Et par contre, pour faire ce travail-là, il faut des moyens. Et c'est pour ça que des instituts citoyens et éco-citoyens ont été créés. C'est pour faire la lumière, en fait, sur cette zone d'ombre qui est énorme, en fait, hein, et qui est aussi une zone d'ombre qui obère, on va dire, l'avenir des enfants qui vivent là-bas, hein. Il y a aujourd'hui, et je voudrais parler de ça parce que je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, il y a un mouvement depuis 2-3 ans de création d'instituts citoyens ou éco-citoyens. Ça a commencé à Fos-sur-Mer il y a une quinzaine d'années. Il s'agit donc de mettre ensemble, dans un institut, donc, des syndicats, des représentants de salariés, des citoyens, pardon, des chercheurs, pourquoi pas des journalistes, des gens qui et des gens qui représentent aussi les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, qui se mettent ensemble pour financer des études participatives auxquelles vont pouvoir donc participer les riverains pour s'approprier, en fait, au lieu de subir leur santé, trouver des solutions, en fait, au problème de exposition à tous ces polluants.
raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Un petit remerciement à nos camarades de Jet FM qui accueillent l'émission Autre Monde, Autres Ondes proposée par Attaque 44. Vous avez reconnu, je pense, Mickey 3D dans une chanson qui s'appelle Il faut que tu respires. Et je vais vous laisser en compagnie de Christian pour son témoignage et son travail dans son association.
Donc l'association s'appelle Vivre à Méhan-Pinouette. Voilà, Vivre à Méhan-Pinouette. Donc Méhan-Pinouette, c'est un quartier de Saint-Nazaire. Hein, c'est un quartier de Saint-Nazaire. On peut presque dire que historiquement, c'est le quartier ouvrier de Saint-Nazaire. Hein, voilà. Pourquoi c'est le quartier ouvrier de Saint-Nazaire? Entre autres parce que il se trouve que dans ce quartier, ou à l'isière du quartier, il y a les deux activités principales industrielles de Saint-Nazaire, qui sont les chantiers de l'Atlantique. Voilà. Et puis l'aéronautique, hein, la navale et l'aéronautique. Donc notre association par exemple, moi je suis né dans ce quartier, hein. Mon père est né dans ce quartier, mon grand-père est né dans ce quartier. Mon arrière-grand-père qui était ouvrier agricole est venu travailler en 1890 au chantier de l'Atlantique, hein, parce que voilà, c'était plus ça a amené un salaire régulier, alors que ouvrier agricole c'était pas facile. Voilà, il était lingueur. Mon grand-père était chaudronnier bord au chantier de l'Atlantique et mon père était ajusteur au chantier de l'Atlantique. Voilà. Donc l'association, Elle est née il y a environ 10 ans, quand on a appris que, lors d'une enquête publique, hein, c'était une enquête publique pour une ICPE, donc ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire des usines, des installations qui risquent de poser des problèmes à l'environnement et à la santé des riverains parce qu'elles utilisent des produits, des produits pas très sympathiques. Voilà. Et on s'est aperçu à l'occasion de cette enquête publique qu'effectivement il y avait un produit pas très sympathique qui allait être utilisé par l'entreprise qui s'appelle toujours hein, Rabat Protec, qui est le chrome 6, hein, le chrome hexavalent, le chrome 6, enfin du chromate de strontium pour être plus précis, qui est un composé du chrome 6, chrome hexavalent. Ce chrome hexavalent, c'est un produit particulièrement dangereux. Il est CMR, un cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible parce que la configuration du quartier faisait que il y avait une rue, la rue de Trignac. D'un côté, il y avait l'usine qui allait s'installer, et de l'autre côté de la rue, il y avait les maisons, quoi. Voilà, à 30 mètres de l'usine. Et il y avait aussi dans le quartier, à moins de 500 mètres, il y avait 3 écoles primaires, il y avait un institut médico-éducatif, il y avait une maison de quartier, il y avait aussi un endroit de repos pour les personnes en difficulté d'insertion. Donc on s'est dit, c'est pas possible qu'une usine s'installe au cœur de notre quartier en rejetant ce produit particulièrement dangereux, quoi. Alors ça, en plus, ça a résonné quand même parce que il faut dire que puisque c'est un quartier historique de Saint-Nazaire, il y a une mémoire, hein, et la mémoire de ce quartier, c'est l'amiante. Hein, c'est l'amiante. Parce que, l'amiante, ça a été. Toutes les familles du quartier, ou presque, connaissent des gens ou ont des gens de leur famille qui sont morts à cause de l'amiante. Moi, personnellement, mon père est mort, hein, à cause de l'amiante. Donc, il a développé un cancer de la plèvre, hein, voilà, après sa retraite. Sa maladie, sa mort a été considérée comme une maladie professionnelle. Voilà, donc. Dans ce quartier, il y a cette mémoire de l'amiante, et on se dit c'est pas possible, on va pas recommencer avec le chrome 6 ce qui s'est passé avec l'amiante. Donc le chrome 6, c'est un produit particulièrement dangereux, donc qu'on trouve quand? Pourquoi? On le trouve dans l'aéronautique, parce qu'effectivement c'est un produit qui permet d'empêcher l'oxydation des ailes d'avion, entre autres, ou des carlingues, voilà. Donc ils sont dans les peintures, et on le trouve aussi dans les fumées de soudage. Parce que quand on soude de l'acier inox, hein, il rejette du chrome 6. Et on le trouve aussi, dans les cimenteries. Voilà. Alors nous, dans notre cas précis, c'est pas dans les eaux, hein, que le chrome 6 est déversé, mais c'est effectivement dans l'air, quoi. Il y a des rejets, l'usine rejette dans l'air des particules de chrome 6. Voilà. Donc on s'est dit, bon, c'est pas possible. Donc on a attaqué la préfecture. On n'a pas attaqué l'usine, hein, c'est clair, hein, on n'a pas attaqué l'usine. On a attaqué la préfecture qui avait donné l'autorisation d'exploiter. Voilà. Et puis attaquer la préfecture, ça veut dire embaucher un avocat. Alors d'abord, on a formé l'association. Voilà. Et ensuite, on a attaqué la préfecture, ça veut dire embaucher un avocat, ça veut dire le payer aussi, bien sûr, c'est normal, hein. On a eu une première victoire. On a eu une première victoire au bout de 2 ou 3 ans, hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorisation, l'entreprise avait commencé à construire ses locaux avant même d'avoir l'autorisation d'exploiter de la préfecture, tellement elle était sûre qu'elle allait l'avoir. Hein, voilà. Et donc ça a pris un certain temps, 2, 3 ans. Voilà. Et alors ce qu'on comprenait pas non plus, c'est que ce produit, la CMR, était un produit tellement dangereux qu'il est sur une liste qui s'appelle la liste REACH, REACH, hein, une liste de produits extrêmement préoccupants que l'Europe établit, hein, que l'ECHA établit. L'ECHA, c'est l'organisme qui gère les produits chimiques en Europe, hein. Et donc ce produit était tellement préoccupant que la Commission européenne avait décidé son arrêt en 2019, en janvier 2019. Et là, on est en 2016, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise va utiliser ce produit alors qu'en 2019, il va être interdit, et elle va être obligée de remettre ses process éventuellement en cause. Bon, on a vite compris que cette interdiction, les lobbies de l'aéronautique, ils ont fait en sorte qu'elle soit reportée. Donc maintenant, de nouveau, Il a été autorisé pendant 7 ans, donc il est autorisé jusqu'en janvier 2026. Normalement, en janvier 2026, le produit, le Chrome 6, devrait être interdit de nouveau. Bon, on ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions. On sait que les lobbies aéronautiques vont faire en sorte que le produit soit de nouveau autorisé. Hein, voilà. Alors, il est autorisé pour quelle raison, d'après la Commission européenne? C'est parce que éventuellement, il n'y aurait pas de produit de substitution. Là, on n'est pas sûr, hein, qu'il n'y ait pas de produit de substitution. C'est un peu ce qui a été dit pour l'amiante, hein. C'est-à-dire que l'amiante a été, il y a eu une prolongation de l'autorisation de l'amiante, alors qu'un tas de pays européens ou américains l'avaient déjà interdit. Et parce qu'on disait, ben, il n'y a pas de produit de substitution pour l'amiante. Et puis, en définitive, au bout d'un certain temps, quand même, ils se sont rendus compte que c'est un produit tellement dangereux, ils ont décidé de l'interdire. Et du jour au lendemain, l'interdiction a fait la substitution. Donc, au bout d'un certain temps, on a gagné. Alors, on a gagné, parce qu'on avait été voir le tribunal administratif, et on a gagné, alors, on a gagné plus sur la forme que sur le fond. Hein, le tribunal administratif ne juge pas sur le fond. Hein, voilà. Le tribunal administratif juge sur la forme. Donc, on a gagné, et le tribunal administratif a dit, ben voilà, c'est fini. L'autorisation d'exploiter du donné à l'usine Ravaprotec, c'est terminé, parce que les riverains n'ont pas été suffisamment informés à travers l'étude d'impact de la dangerosité du produit. Voilà. Alors là, branle-bas de combat, hein, branle-bas de combat, bah, dans l'entreprise, parce qu'ils étaient du jour au lendemain obligés de fermer et d'arrêter. Voilà. Et puis branle-bas de combat à la préfecture. Parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que personne ne croyait qu'on allait gagner. Voilà. Et donc, branle-bas de combat à la préfecture. Et donc, quelles ont été les deux répliques de la préfecture? Première réplique, une dérogation. Un arrêté de la préfecture dérogatif disant, ben voilà, on fait une dérogation, même en dépit du jugement du tribunal administratif, on autorise l'entreprise Rabaprotec à continuer. C'est paru dans les 3 jours. Donc l'entreprise a dû s'arrêter peut-être un jour ou deux et puis elle est repartie. Et par contre, on demande une deuxième enquête publique. Voilà. Et puis l'autre versant de la réplique de la préfecture, ça a été puisque les ICPE font face, enfin, c'est une autorisation d'État, l'État nous a attaqué en appel. Voilà, la préfecture, l'État nous a attaqué en appel de la première décision du tribunal administratif. Voilà. Et paradoxalement, puisque c'est ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement, elle dépendait du ministère de l'écologie. Donc l'appel contre nous, contre une décision que nous, on considérait une décision plutôt favorable à la santé des riverains, il était signé de Rugy, ministre de l'écologie de l'époque. Voilà. Donc on a trouvé ça un peu drôle, quoi. Donc on est parti en appel. On est parti en appel. On s'est posé la question parce que toutes les parce que ça coûte de l'argent. Hein. On a dû dépenser peut-être 8 000 euros, hein, pour tout ça. Et donc c'est simplement les adhésions de nos adhérents qui faisaient qu'on pouvait payer les avocats, quoi. Et en appel, finalement en appel, on a perdu. On a perdu. Alors on n'a pas complètement perdu. Parce que la préfecture nous a dit, bon, la préfecture qu'on avait déjà rencontrée, hein, et la DREAL, qui est tout à fait, la DREAL est tout à fait d'accord sur la dangerosité du produit. Hein. Donc on n'a pas complètement perdu parce qu'ils nous ont dit, ben voilà, on va vous mettre une commission de suivi de site. Voilà. Normalement, les commissions de suivi de site sont réservées aux entreprises Seveso. Hein. Mais là, ils nous ont dit, bon, ben, effectivement, le produit, la dangerosité, donc depuis maintenant 7-8 ans, hein, tous les ans, bon, moi, puisque je représente l'association, je me retrouve devant les membres de la direction de Ravaprotec, devant la DREAL, à la sous-préfecture de Saint-Nazaire, le sous-préfet est là. Et il y en a eu une autre aussi pour Airbus Atlantique, parce qu'entre-temps, on avait aussi attaqué Airbus Atlantique, parce qu'on s'est aperçu qu'Airbus Atlantique balançait du Chrome 6 et bien plus encore que Rabaprotec. Et donc, par exemple, donc voilà, donc il y a une commission de suivi de site qui a des pouvoirs limités, mais quand même, Il y a quand même une obligation pour l'exploitant de venir s'expliquer parce qu'il y a des règles très très précises qui sont imposées à ces entreprises pour l'histoire du rejet du chrome 6. Hein. Il y a des cheminées, une cheminée avec de la filtration qui doit être supérieure à 99%. Il y a une quantité qui doit aller dans l'air qui doit être inférieure à un certain niveau. Et quand c'est pas respecté, ben voilà, nous on est là et on dit ben, c'est pas possible. Vous faites pas votre boulot, débrouillez-vous. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu. C'est ce qui s'est passé il y a maintenant en septembre, quand on a découvert, voilà, d'une analyse, c'est pas d'analyse, hein, inopinée, proposée par la DREAL pour l'entreprise Airbus Atlantique, qu'elle dépassait de 100 fois les normes autorisées sur le rejet de Chrome 6. Voilà. Et donc là, branle-bas de combat. Une réunion à la préfecture et à la sous-préfecture, et l'entreprise a été sommée de se justifier. Bon, elle s'est justifiée en disant c'est pas possible, c'est une anomalie, il y a des erreurs dans les mesures. Voilà. Il y a une commission de suivi de site extraordinaire où on va poser la question. Eh ben, c'est 100 fois plus de Chrome 6, ils ont réellement été envoyés dans notre atmosphère, c'est nous qui les avons respirés ou non? Voilà. Et donc, il y a quand même, à travers ces commissions de suivi de site, la possibilité pour les riverains de contrôler les activités des entreprises qui nous entourent. Bon, j'essaye d'être positif, clairement, mais il n'y a pas que l'État. Alors l'État, bien sûr, hein, voilà, mais il y a aussi, c'est le problème de l'emploi aussi. C'est le problème alors chantage, c'est peut-être pas le bon mot, hein, mais c'est le problème de l'emploi. Par exemple, le maire de Saint-Nazaire, lui, il est pro-industrie, hein, parce que si on commence à dire que les chantiers de l'Atlantique, alors il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'emploi et il y a le problème des salariés et des riverains, parce que les premiers touchés, c'est quand même les salariés. Hein, c'est les salariés, les premiers touchés.
Oui, tout à
Par
fait.
exemple, au chantier de l'Atlantique, pour prendre un autre exemple où il y a des fumées de soudage et du chrome 6, au chantier de l'Atlantique, en plus, le fonctionnement des chantiers de l'Atlantique, bon, il y a 2 à 3 000 qui sont réellement employés par les chantiers de l'Atlantique. Sur ces 2 à 3 000, il y a beaucoup de techniciens et assez peu d'ouvriers. Et l'essentiel des ouvriers des chantiers de l'Atlantique, c'est des boîtes sous-traitantes et avec pas mal de travailleurs détachés. Hein, voilà. Et donc, c'est ces gens qui bossent là, entre particuliers les soudeurs, les gens qui bossent à bord. Hein, voilà. Les soudeurs, normalement, ils ont ce qu'on appelle des EPI, c'est-à-dire des masques de protection, hein, mais qu'ils n'utilisent pas toujours. Et les entreprises sous-traitantes contrôlent pas spécialement le fait qu'ils les utilisent ou non. Hein, ou alors, ils leur disent, vous avez ça à faire, débrouillez-vous, hein, de discours. Et là, actuellement, on a eu une réunion avec l'ULCGT de Saint-Nazaire pour éventuellement organiser une manifestation l'année prochaine autour de la santé au travail et de la santé des riverains, petit à petit quand même, au niveau des représentants des salariés, il y a quand même aussi cette prise de conscience qui se fait.
On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rivières.
un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques.
Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 washing.
Merci Christian, qui était accompagné par une chanson du groupe Trio, Greenwashing. Et nous allons terminer avec Delphine de l'association Amaris.
Alors, je m'appelle Delphine Favre, je travaille pour l'association Amaris, qui est une association de collectivités, donc des communes et des intercommunalités, qui accueillent sur leur territoire des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement, plus ou moins dangereuses. Donc ça va des ICPE soumises à déclaration jusqu'aux sites Céveso seuil haut, donc comme à Donges, des raffineries et d'autres sites qui génèrent des risques et des pollutions. Donc l'association Amaris, c'est une association de défense d'intérêts des collectivités qui ont des obligations et des actions à mettre en œuvre sur leur territoire pour prévenir les risques. Et Amaris également organise une mise en réseau de ses adhérents pour tenter de résoudre des problèmes ou les accompagner au mieux dans la gestion de situations problématiques.
Pourquoi est-ce que les collectivités n'arrivent pas à être avec les citoyens qui défendent finalement des choses tout à fait défendables, hein, c'est-à-dire le bien-être, pas de pollution ou à minima, etc. quoi.
Ouais. Je ne sais pas s'il y a une seule réponse ou si on détient toutes les clés côté Amaris, mais on a engagé un travail en 2022 avec nos adhérents sur cette question de la prise en compte des risques chroniques, donc les pollutions, et ce qui ressort de 3 années d'échange et puis de l'analyse de la réglementation, etc., c'est que les collectivités n'ont pas de marge de manœuvre. Elles n'ont pas de pouvoir sur ces questions-là. Elles ont quasiment ou exactement les mêmes difficultés que les associations de riverains ou de défense de l'environnement pour accéder aux documents. Donc en fait, il faut avoir en tête que la plupart du temps, les élus sont complètement démunis. Et c'est compliqué pour un élu d'être démuni et dire à ses habitants « je ne sais pas » ou « je n'ai moi-même pas la réponse » ou donc après, il peut y avoir des réactions un peu différentes, mais il faut vraiment avoir en tête que sur ces questions des pollutions industrielles, les collectivités sont complètement dépendantes de l'État. Elles n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas d'information, elles n'ont pas de responsabilité vraiment directe. Donc les élus peuvent se tenir loin, ou en tout cas nous, ce qu'on sent, c'est qu'ils sont, selon les territoires, soumis à des pressions citoyennes. Les habitants demandent quels sont les impacts pour leur santé, et c'est tout à fait légitime. Et en face, les élus n'ont pas le début d'une réponse. Et ça, c'est compliqué pour un élu, en fait, de pas pouvoir répondre.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? C'est-à-dire que les collectivités, les responsables locaux, comment on pourrait faire pour qu'ils soient, ben, non pas plus impliqués, parce que je pense qu'ils sont impliqués et impactés aussi. C'est de quelle aide pour que ça change auraient besoin ces collectivités? Est-ce qu'il y a une réponse à ça d'ailleurs? Je sais pas.
Ouais, peut-être vous allez directement sur les pistes. On en a, hein. On les soumet à l'État en ce moment. Je poserais bien encore un niveau.
Oui,
c'est ce dont on s'est rendu compte, c'est donc il y a une il y a le fait que les élus soient démunis sur ces questions-là, tout comme les habitants. Il y a le fait qu'il y a une difficulté d'accès à l'information. Quand elle existe, la plupart du temps, cette information n'existe pas. Ou ce qui existe ne répond pas aux questions des habitants, c'est-à-dire la question quel est l'impact pour ma santé. Et ce qu'on a dit, c'est que et on va laisser seul à le dire à Maris, hein, les habitants le disent, mais Santé publique France le dit aussi. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'exposition des populations. On ne sait pas à quoi sont exposées les populations autour des sites industriels. Ni sur quel périmètre, donc on sait très peu de choses sur cette exposition des populations. Et un élu derrière, s'il voulait enclencher une action pour aller vers du mieux en termes de d'impact sanitaire, il a besoin de savoir à quoi les populations sont exposées. Donc en fait, la première piste est, c'est, enfin, et comment dire. Et si si on progresse pas là-dessus, on peut difficilement envisager d'autres choses. C'est qu'il faut mieux connaître. Il faut mieux connaître. Il faut savoir à quoi les populations sont exposées. Donc ça veut dire des suivis environnementaux qui tiennent compte de la présence d'installations industrielles dans les territoires. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà.
Alors, comment on fait pour avancer?
Il y a certainement un bout de réglementation, hein, qui à faire évoluer. Après, ce qu'on constate, c'est que il y a énormément de substances chimiques. Je sais pas, on nous annonce souvent le chiffre de 350 000, mais c'est peut-être bien 500 000 ou 200 000. Mais enfin, bon, il y a énormément de substances, et on peut pas imaginer que la réglementation puisse aller sur chaque substance une par une. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein, la réglementation réglemente et organise des suivis pour des substances prises individuellement. Et donc, avec les limites qu'on constate, nous, ce qu'on remarque, ce qui permet de progresser en connaissance, c'est de se placer en niveau local, donc d'être plutôt dans une action locale, et on suit avec énormément d'intérêt ce que font les instituts éco-citoyens pour la connaissance des pollutions. Donc il y en a un qui est situé autour de l'étang de Berre, hein, qui a été créé à l'initiative des collectivités et qui est financé par des collectivités. Donc les instituts éco-citoyens, puisque ça SME, le dernier qui a été créé l'a été sur le territoire de la métropole de Lyon, ou l'observatoire local de la santé de Dunkerque, hein, qui investit la question de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Donc c'est, il y a vraiment un enjeu de connaissance et d'investissement, d'aller chercher tous les acteurs locaux tous les acteurs qui sont concernés par ces questions, donc le monde de la santé, les médecins généralistes, les ARS, les CPTS, etc., le monde de la recherche. Il faut convoquer la science, hein, sur les territoires pour progresser, les acteurs économiques, mais aussi également les citoyens, sur des questions aussi complexes que la question de l'impact des pollutions industrielles. Il serait dangereux de se couper de la... je sais pas, on parle souvent de savoir citoyen, mais on en est bien là, en fait, hein, savoir quelles sont les questions qu'ils posent pour orienter les questions de recherche et y répondre, plutôt que de s'engager dans des dispositifs, je sais pas, type études de zone, etc., qui sont des grosses machines, mais qui en général ne répondent pas aux questions des gens. Voilà, donc là, c'est une piste vraiment des actions locales, le dialogue. Le dialogue, et puis ça nécessite de dégager des moyens financiers qui sont importants. Aujourd'hui, c'est pas le voilà, les marges de manœuvre sont voilà, sont pas vraiment là sur ces questions-là. Amaris milite pour que ces questions de connaissances et de recherche soient financées par par les entreprises qui génèrent ces risques et ces impacts. Vraiment, le principal frein pour répondre aux questions des habitants et se saisir du sujet et chercher des pistes d'amélioration, c'est la connaissance qui n'existe pas. On le voit par exemple avec ce qu'on appelle la crise des PFAS, donc ces polluants éternels qui ont contaminé les corps et les milieux. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une réponse nationale qui est faite avec un plan interministériel, voilà, des investissements dans des recherches de substitution, etc. Et sur le terrain, des habitants qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants. Voilà, sur la question des enfants, on touche quelque chose de plus en plus sensible. Et des élus qui non seulement doivent continuer à délivrer de l'eau potable à leurs habitants alors que les ressources sont contaminées, ce qui suppose des investissements colossaux qui vont devoir se poser la question de la dépollution des sols et de la gestion de la dette environnementale qui aujourd'hui n'est pas prise en charge hein, financièrement, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué. Des élus qui font face à voilà une pression citoyenne et des habitants inquiets, et puis en face un plan interministériel qui répond à côté, qui répond pas en fait. Donc il y a vraiment oui une déconnexion entre deux niveaux.
Fin des deux émissions consacrée à la zone portuaire de Saint-Nazaire. Nous suivrons bien sûr de près l'évolution de la situation sur ce site. Je vous invite à vous projeter dans l'action, à intégrer des collectifs pour peser sur les pouvoirs publics et obtenir d'être partie prenante. Je vous propose, à la lecture et parmi d'autres revues, deux revues écologiques, Silence et Social Terre, Les transformations des humains et du vivant face aux prédateurs humains nous obligent à plus de solidarité et à inventer les luttes et les combats à venir. Prochaine émission le mardi 13 février à 17h, consacrée au féminisme au pluriel. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Ciao, ciao, bisous, bisous, see you soon.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.